Le thème que nous allons prendre ce matin, c'est pas quelque chose de courant, mais quelque chose qu'on connaît. Qu'on connaît sans doute bien, mais que peut-être on oublie de mettre en pratique. C'est un message qui a été apporté par Jean-Baptiste. J'allais dire, c'est pratiquement le premier message évangélique qui a été apporté. Et vous savez lequel que c'est ?
Repentance.
De repentir.
Exactement. Repentez-vous. C'est pas un message qu'on entend couramment, ça. Surtout de nos jours. Et puis de se repentir de quoi, après tout, hein? Les choses sont devenues tellement banales. Ouais. Mais la traduction en grec de ce mot repentance, c'est métanoïa. Et ça veut dire changer. Changer de mentalité. Changer d'intention, c'est stopper le péché dans notre vie. C'est de le rendre inopérant, inefficace. Et la Bible nous dit qu'il n'y a que le sang de Jésus pour nous purifier de tout péché. Mais pour cela, faut-il que nous les confessions ces péchés. J'aurai peut-être, dans les semaines qui viennent, l'occasion de vous parler de la confession. Mais sans doute, après cette étude sur la repentance, nous verrons ce que c'est que la conversion. Oui, c'est l'apôtre Jean qui nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et j'ai trouvé un texte aussi intéressant en lisant autre chose que la version seconde, et notamment Parole vivante, dans Romains chapitre 12, verset 12, où il est dit, ne vous coulez pas simplement dans le moule du monde, ne vous conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent, ne copiez pas les modes, les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Tout ça en parole vivante. Il faut évidemment bien que l'inspiration de nos pensées soit renouvelée, que notre cœur soit transformé et que toute notre attitude mentale et spirituelle soit changée. Et nous comprenons en lisant cette parole que la repentance, elle est le renouvellement d'une attitude mentale à l'égard de Dieu. Et cela par rapport à chacun de nous, parce que n'oublions pas que nous sommes des pécheurs. J'entends pas beaucoup d'amen. Vous pensez peut-être être des êtres supérieurs, que plus rien ne peut vous atteindre, même pas le péché. Eh bien non. Je vous dis non, on risque de vous décevoir. Parce que nous sommes des pécheurs. Sans doute des pécheurs sauvés par grâce, mais nous sommes néanmoins des pécheurs. Et que nous sommes toujours en état de péché, mes frères et sœurs. Vous pouvez dire amen.
Amen.
Ne soyez pas des moutons de panurge non plus, hein, pour que ce soit une conviction dans votre cœur. Parce que là où il n'y a pas de conviction, il n'y a pas d'œuvre que Dieu peut faire dans votre cœur. Dieu ne fera qu'une œuvre quand vous serez convaincu de péché. Et lorsque le péché prendra une telle ampleur dans votre vie, qu'il vous dégoûtera, qu'il vous tourmentera, que vous n'endormirez plus la nuit et que vous serez obligé de vous mettre à genoux devant Dieu. Oui, souvent, malheureusement, les chrétiens aujourd'hui ne réalisent plus la gravité du péché, quel qu'il soit. Et j'aimerais bien que ce matin, que ça soit comme une sorte de révélation dans votre cœur. Parce que Dieu veut nous purifier. Et je ne voudrais pas encore ce matin que nous puissions bloquer le travail du Saint-Esprit en disant « ce n'est pas grave ». Mais Dieu dit « tu dois renoncer ». Tu dois, j'allais dire immédiatement, prendre la décision de stopper. Ne dis pas dans ton cœur « je verrai plus tard ». Ne dis pas dans ton cœur « ce n'est pas grave ». Tout péché est grave, il te coupe de la communion avec Dieu. Et tant qu'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de communion avec Dieu, il n'y a qu'un simulacre de spiritualité. Nous parvenons à la repentance. Vous savez comment? Lorsque la tristesse vient faire son œuvre dans votre vie. Et si vous n'êtes pas attristé par ce que vous avez fait, vous avez un problème, vous et Dieu. Je peux vous le dire, pour l'avoir vécu ces temps derniers. Oui, mes frères et sœurs, soit que notre péché nous laisse indifférents, parce que Dieu ne vous a pas puni tout de suite, alors Dieu est passé dessus. Bien non, Dieu n'est pas passé dessus. Parce que la Bible nous dit que notre péché nous rattrapera à un moment ou à un autre. Ça sera dans 8 jours, dans 15 jours, dans 6 mois, dans 8 mois, dans 1 an. Et ça vous reviendra en pleine figure, hein, tel un boomerang. Je le sais, parce que je viens de le vivre. Alors ne croyez pas que nous soyons exempts de ça. Le péché nous prive de la présence de Dieu. Le péché nous prive de la présence du Saint-Esprit dans nos cœurs. Le péché nous rend malheureux. Le péché nous rend tristes, mes frères et sœurs. Oui. Soit cela nous laisse indifférents. Alors je peux te dire, mon frère, ma sœur, si tu ne cèdes pas à la voix de Dieu, tu vas endurcir ton cœur. Alors, si tu éprouves, comme je l'ai éprouvé, une réelle tristesse, alors oui, cela va te conduire à demander pardon. Pardon. Pardon à Dieu. Pardon à ceux que tu as offensé, blessé, à qui tu as fait du tort, à qui tu as fait du mal. à qui tu t'es pas conduit honnêtement. Pardon aussi à toi-même. En fait, comme nous l'avons chanté ce matin, ranime, puisque nous nous prétendons chrétiens, alors ranime en moi, ranime en nous l'Esprit de Dieu, ton Esprit, Seigneur, pour me rendre sensible à ce qu'est le péché, pour me rendre sensible à mon propre péché. Dieu veut réveiller ou éveiller en nous notre esprit. Dieu veut éveiller en nous la réalité du péché. Et il veut que nous éprouvions un certain malaise. Un malaise qui nous conduit à la repentance. Parce que seul ce chemin-là peut apaiser nos cœurs par le pardon de Dieu, par le pardon des autres aussi, si nous avons quelque chose avec quelqu'un d'autre. Il ne peut pas avoir une œuvre de Dieu tant qu'on n'a pas compris qu'on a offensé Dieu en premier, par notre attitude, par notre comportement, par notre péché, par notre passé aussi. Parce que parfois, il y a des choses dans notre passé qui ne sont pas réglées. Il faut vraiment que les choses anciennes soient passées. Mais pour cela, il faut que le sang de Jésus passe sur notre vie. Amen. Il n'y a que dans cela, dans ce cas-là, les choses anciennes sont passées. Autrement, elles rejailliront toujours. Le pardon est accordé à ceux qui se repentent sincèrement et le demandent en confessant leur faute. Chaque fois qu'un peuple, chaque fois qu'un individu s'est tourné vers Dieu, en reconnaissant sa misère, en reconnaissant son péché, il trouve grâce auprès de Dieu. Parce que Dieu est tout puissant. Dieu a fait ce qui était nécessaire pour que vous et moi, nous soyons réconciliés avec Dieu. Pour que tu sois réconcilié avec Dieu. Il y a pour chacun de nous, pour chaque individu, un jour d'expiation, il y a un jour de pardon. Vous savez, comme le peuple d'Israël, qu'on appelait le Yom Kippour, c'était le grand pardon, le jour du grand pardon. Mais je crois qu'aujourd'hui, mes frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose qui doit avoir une fois par an, comme la Saint-Valentin. Soyons sérieux. Parce qu'il y a un passage obligatoire pour le pardon des péchés, pour le salut, pour notre salut, mes frères et sœurs, pour ton salut à toi qui es ici ce matin. C'est un passage obligé. La repentance envers Dieu, la foi sincère et profonde en Jésus-Christ pour lequel tu donnes ton cœur. Et puis il y a la conversion. La conversion, vous savez ce que ça veut dire? Là, parle. Ah, convertis-toi, il faut que tu te convertisses. Les trois quarts des chrétiens, ils ne savent pas ce que ça veut dire, la conversion. On aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. Nous avons besoin de la présence de Dieu, c'est ça. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour qu'il nous convainque, pour que nous soyons réconciliés avec lui, pour que nous ayons la paix du pardon, et que nous ayons une nouvelle relation avec lui. Nous allons voir ensemble, je ne sais pas si on aura le temps ce matin, de voir les étapes de la repentance, parce qu'elle est absolument nécessaire.
Amen.
Elle est indispensable. Parce que Jésus dit que si nous ne nous repentons pas, nous périrons. Si tu ne te repens pas, tu vas mourir. Ah oui, mais je sais bien que tout le monde va mourir. Mais ce n'est pas de cette mort-là que je parle. Je parle de la mort, c'est-à-dire de la séparation éternelle avec Dieu. Soyons sérieux, mes frères et sœurs. et amis ce matin. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Qui est-ce qui a péché ? C'est son père, c'est sa mère, et ces 18 personnes qui sont mortes et sous la tour écroulées. Qu'est-ce qu'ils avaient fait de mal ? Oui, on essaie toujours de trouver des justifications pour s'excuser, pour dire en fin de compte, je suis comme les autres. Ben oui, t'es un pécheur comme les autres et tu as besoin d'être sauvé. Car Jésus est venu. Il est venu pour sauver. Il n'est pas venu pour sauver des justes. Parce que la Bible nous dit qu'il n'y en a aucun. Pas toi, pas moi, ni aucun ici dans cette salle. Mais Jésus est venu appeler des pécheurs. Et afin que nous soyons dans l'humiliation et que nous nous reconnaissons comme tels. Et ça, vous savez, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous convaincre de péché, justice et jugement. Et c'est pour ça, j'ai dit tout à l'heure, ne bloquons pas l'action du Saint-Esprit. N'essayons pas de discuter avec Dieu. J'ai envie de dire, vous auriez toujours tort. Donc, bien entendu, il y a des étapes dans la repentance. Premièrement, la conviction de péché. De reconnaître tout simplement, même si tu te sens comme quelqu'un de parfait, de dire, j'ai pas tué, j'ai pas volé, j'ai pas menti. Ah, ça. Peut-être une fois dans ta vie, t'as menti. Si c'est pas réglé, faut le régler. La conviction de péché. Le péché, c'est louper la cible. Ce pourquoi les hommes ont été créés, pour vivre éternellement avec Dieu. Vous savez, vous vous rappelez dans la Genèse, Dieu avait mis l'homme dans le jardin. Il a dit, voilà, je te donne un paradis terrestre. Vis heureux. Ça n'a pas duré. Malheureusement. Alors, c'est vrai, ce matin, je voudrais que le Saint-Esprit puisse toucher quelques cœurs, sinon tous, parce que nous sommes tous concernés. Vous vous rappelez de la première prédication de Pierre à la Pentecôte ? Je ne sais pas ce qu'il leur a dit énormément, hein. Mais en fait, il leur a parlé du peuple d'Israël. Puis en fin de compte, quand à la fin ils ont dit... qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quand ils ont pris conscience de ce que Pierre leur avait dit, ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire ? Hommes frères, que ferons-nous ? Alors il leur dit, repentez-vous. Voilà le deuxième message de l'Évangile. Premier, repentez-vous. Le deuxième, repentez-vous. Ah, nous qui voulons des super prédications. Ça, c'était les prédications de Jean-Baptiste et les prédications de Pierre. Alors, on revient à la base de l'Évangile, mes frères et sœurs. Je ne sais pas si Jean-Baptiste était un super prédicateur. Je ne sais pas si Pierre était un super prédicateur. Moi, je n'ai pas l'impression d'être un super prédicateur. Mais une chose que je sais, c'est que je vous apporte la parole. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Vous la recevez dans votre cœur ou pas. Je prie que le Saint-Esprit manifeste sa grâce dans vous. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'à l'issue de la prédication de Pierre, il nous est dit, ils eurent le cœur vivement touché. Vous savez, aujourd'hui, on est habitué à tout. Il n'y a plus rien qui nous touche maintenant. Bon. Comme on dit, on est vacciné. Mais tu n'es pas vacciné contre le péché. Et tu as besoin de Jésus dans ton cœur et dans ta vie pour que celui-ci change cette vie. La repentance est un sentiment qui se produit dans notre cœur. C'est la révélation de la parole de Dieu. C'est la révélation de l'Évangile. Et ce matin, je vous annonce l'Évangile, mes frères et sœurs. Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Il est mort pour que tu sois réconcilié avec Dieu. Et Dieu, ce matin, par son esprit, et c'est pourquoi il nous a donné son esprit. Et son esprit est au milieu de nous ce matin. Moi, je le crois. Et seul le Saint-Esprit opère dans le cœur d'un homme et d'une femme la conviction de péché. Il y a des gens, il y a des personnes qui n'ont pas conscience de leur situation de pécheur, même parmi les chrétiens. Ils nient la gravité de leur situation. L'apôtre Paul n'y va pas par quatre chemins. Dans Romains chapitre 6 et verset 23, qu'est-ce qu'il nous dit ? Dieu dit que le salaire du péché,
c'est la mort. C'est la mort.
C'est la mort.
C'est la mort.
Ah oui. Vous savez que vous avez une épée de Damoclès au-dessus de la tête ? Vous savez qu'elle peut tomber à tout moment ? Oui ? Oh, ben oui, mais vous savez, Dieu est bon. Il est gentil, il ne peut pas faire ça. C'est pas dans le Dieu que je crois. Le bon Dieu. Il est trop gentil. Ah non. Non, c'est pas ça. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors c'est vrai, j'ai envie de dire, t'es déjà mort. Tu es déjà mort pour Dieu. Puisque tu es dans le péché, tu ne reconnais pas le péché, tu es mort. Mais Dieu veut te ramener à la vie si tu confesses ton péché. Si tu es convaincu dans ton cœur que tu as offensé Dieu, que tu n'as pas fait ce qu'il fallait vis-à-vis de Dieu. Oui, il y a la mort physique, qui est la première conséquence du péché de l'humanité. Nous mourrons tous, vous comme moi. Et puis il y a la mort spirituelle, c'est ce dont je parle, qui est la séparation d'avec Dieu et la privation de sa vie en nous. C'est pourquoi, je le répète, ne bloquons pas ce matin le travail du Saint-Esprit. Cette deuxième mort, si je puis dire, ou cette mort spirituelle, c'est cette seconde mort qui se traduit par les temps de feu qu'on appelle l'enfer. C'est-à-dire être loin de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut produire en nous cette conviction de péché. Relisez Jean 16:8. Notre péché attriste Dieu, nous dit Paul dans Éphésiens. Et attristé lui-même, il répand sa tristesse dans le cœur qu'il veut gagner. C'est ce que Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 7-9. C'est cette tristesse selon Dieu qui produit dans notre cœur une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Dieu travaille notre conscience. Dieu travaille votre conscience. Et si vous êtes sincère, si vous êtes honnête avec vous-même, alors laissez Dieu vous toucher. Laissez Dieu vous parler. Laissez Dieu manifester sa puissance et son amour en vous. Ce n'est pas votre connaissance de la Bible. Ce n'est pas votre connaissance historique. Ce n'est pas votre connaissance tout court qui vous permettra d'être sauvé. C'est la foi en Jésus qui vous convainc de péché, de justice et de jugement. Vous savez, David a fait cette expérience avec Dieu à un moment de sa vie. Pourtant, il était roi. Il était au-dessus de tout le monde. Il se croyait peut-être intouchable. Et pourtant, il a péché. Il est tombé. Comme ça peut arriver chacun d'entre nous. Et il a été hanté. David a été hanté Ça veut dire tourmenter, travailler dans son cœur, dans son être. Il a été hanté par le regret de sa faute, qu'il voit constamment, qui le harcèle constamment. Il réalise qu'il a péché contre Dieu. Non, il a seulement péché contre un homme, mais il a péché contre Dieu. Je crois que mes frères et sœurs, nous savons très bien lorsque nous, hommes ou femmes, nous avons mal agi. Mais parfois, nous ne voulons pas demander pardon à Dieu. Et comme je l'ai dit tout au début, parfois nous disons « Oh, c'est pas grave. Dieu me pardonne. Dieu me pardonne. » L'impression que c'est peanuts. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. On est vraiment léger, moi je trouve, avec cette histoire des péchés, avec cette histoire de la confession. C'est devenu une banalité maintenant. Oui. Vous savez, David a été travaillé. Et il dit à un moment donné, on trouve ça dans le psaume 51, verset 4 à 9, « J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Vous savez, je peux faire une prédication sur ce sujet-là, la matière. Hein, sans doute, on en parlera sur la confession, on va parler un peu plus longtemps de ces choses-là. Il est dit, il est fidèle et juste pour pardonner nos péchés. Et si nous confessons, et il est donc, j'allais dire, indispensable. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre alternative que d'avouer son péché à Dieu. Je dirais même, en aparté comme cela, parfois ce n'est même pas suffisant parce qu'ils font le confirmer en le confessant devant les hommes. Vous allez dire, pourtant, si vous voulez avoir entièrement un pardon total, c'est le processus. Et puis en même temps, parce que bien entendu, hein, David, il aurait pu garder le silence. C'est entre moi et Dieu. Mais la faute était trop grave. La faute était trop grave. Parce qu'à un moment donné, il s'est trouvé sans repos. Parce qu'il n'était pas encore conscient du mal qu'il avait fait, du péché qu'il avait commis. Et c'est ça qui est important. Ce n'est que lorsqu'il a reconnu et confessé son crime, vous entendez bien, devant le Seigneur, qu'il a obtenu l'assurance de son pardon. Et puis, le deuxième aspect, j'allais dire, de la confession, c'est l'abandon du mal. Vous savez, le péché, c'est quelque chose d'attrayant. Maintenant que la Bible nous dit que le diable se déguise en ange de lumière, et donc tous ses attributs et tout ce qui va avec, et ses anges, ils sont là pour, j'allais dire, nous dévoyer, pour nous faire détourner de la réalité des choses, pour nous dire, en fin de compte, bah oui, bah, vis comme tout le monde, vis ta vie, quoi, après tout. Ça ne t'empêche pas d'être chrétien. Tu peux aller à la messe le dimanche. Tu peux prier Dieu. Mais alors laisse-moi te dire que ta prière, elle ne va pas plus haut que le plafond. Hein. Et moi, je me suis aperçu que chez moi, le plafond est encore plus bas qu'ici. Alors, vous voyez, vous rendez compte. Et oui. Parce que la vraie repentance, elle produit le dégoût du péché. Elle produit une rupture avec les mauvaises habitudes qui se sont perpétuées jusque-là. tellement qu'on y a pris goût, tellement que c'est dans nos habitudes, puisque Dieu ne nous a pas repris. Mais Dieu te reprend ce matin. Dieu te parle ce matin. Comme Dieu m'a parlé. Te parle ce matin. On va dire, il n'y a pas de prophétie dans l'église. Ben, je te prophétise que Dieu parle, te parle ce matin. Oui, Dieu te parle. Il faut qu'on arrive à cela. Il faut que le mal, il faut que le péché. Je ne sais plus quel prédicateur, prédicateur anglais qui disait, mais ne priez pas pour la paix du pécheur. Hein? Ne priez pas pour qu'il se sente bien, non, au contraire, priez pour qu'il se sente mal. Priez pour qu'il plie le genou devant Dieu. Vous êtes étonné qu'aujourd'hui il n'y a plus de miracles, il n'y a plus de prodiges, il n'y a plus de délivrance. Mais quand le peuple de Dieu commencera à se mettre à genoux pour prier pour les pécheurs, avec vérité, quand nous prierons pour nous-mêmes pour nos propres péchés, alors oui, alors le Saint-Esprit agira avec puissance. Oui, il amènera les gens à la conversion. Oui, il produira des guérisons et des délivrances. Les démons seront chassés. Oui, mes frères et sœurs, l'abandon du mal. Et c'est pourquoi Jésus, devant les pharisiens, leur disait, mais race de vipères, qui vous a appris, ouais. Hein? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. C'est-à-dire changer de vie, changer de paradigme. Paul prêchait partout la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. On trouve ça dans les Actes, au chapitre 26. Et puis, hein, l'autre point aussi, c'est la complète soumission à Dieu. C'est la conversion. C'est le cri de l'homme qui est terrassé et qui dit, Seigneur, maintenant que j'ai pris conscience de tout cela, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? La repentance envers Dieu n'a d'effet que si elle est suivie de la vraie foi en Jésus-Christ. Et comme je le disais vendredi, oui, j'ai la foi, je crois en Dieu. Ben oui, le diable aussi. Le diable aussi, il croit en Dieu. Mais la seule différence, c'est que lui, il tremble. Nous, on n'est même pas capable de trembler. Le diable, et pourtant, le diable, il a une autre autorité que nous avons. Nous ne sommes pas capables de trembler devant le péché. Et le diable, il tremble devant Dieu. Puissions-nous trembler, mes frères et sœurs, devant Dieu ce matin. Ta vie est-elle en règle? Si Dieu venait à la fin de ce culte-là enlever l'Église, serais-tu prêt? Serais-tu parmi les enlevés? Ta vie aurait-elle réglée? Ah non, Seigneur, laisse-moi aller ensevelir mon père. Ah non, Seigneur, ma fille, elle se marie. Non. Si Jésus se présentait là, ici, dirait te jeter dans ses bras avec ta vie et ton péché. Une complète soumission à Dieu. Vous savez, la repentance, elle dispose le cœur. Elle dispose le cœur à l'humiliation, à l'acceptation du pardon que seul Jésus-Christ nous a acquis la croix. C'est quelque chose qui est important. Vous savez, j'ai entendu dans le temps des témoignages, et c'est pourquoi je me méfie beaucoup des témoignages aujourd'hui, de gens quand ils sont venus à la conversion et lorsqu'au moment du baptême, nous leur faisions donner leur témoignage, c'était plutôt la gloire de leur passé que la gloire de Jésus-Christ dans laquelle Dieu venait de leur donner une nouvelle vie. Et ça me mettait profondément mal à l'aise de voir avec des détails croustillants que ce pouvait être leur propre vie avant de connaître Jésus-Christ. Je disais vendredi, par exemple, je dis, si vous connaissiez ma vie dans les moindres détails, vous diriez, vous vous enfuiriez en courant. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est notre propre vie. devant le Seigneur cette vie nouvelle qu'il nous offre, qui nous change. C'est aussi la persévérance. La persévérance dans une attitude qui est constante de repentance. La repentance, c'est pas seulement le jour où j'ai baptême, ou avant où je me suis repenti de mes péchés, parce que qui de nous, depuis le jour de son baptême, n'a jamais péché? Qui lève la main ce matin? Eh oui. Qui n'a pas péché hier, ou ce matin, ou la semaine avant, ou avant? Est-ce que tu t'es placé devant Dieu pour ça? Est-ce que tu es venu propre devant tes frères et sœurs ce matin? T'es-tu senti digne de prendre la Sainte Cène en célébrant la mort du Seigneur pour toi, pour tes propres péchés? Oui, la repentance, c'est quelque chose de continu, mes frères et sœurs. Qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas. Je ne sais pas l'heure qu'il est.
Presque midi moins le quart.
Alors on va arrêter là. Je crois qu'on a dit suffisamment ce matin pour que vous soyez convaincus d'une vraie repentance et du don de Dieu que Dieu veut vous accorder. Je le redis, Dieu n'est pas venu appeler des justes, mais il est venu appeler des pécheurs à la repentance. Alors que ce matin, bien nous puissions être comme le publicain qui vient dans le temple. Vous vous rappelez ce publicain qui vient dans le temple? L'autre qui est, le pharisien, imbu de lui-même. Toi, Seigneur, tout ce que je fais pour toi, tu vois mes dîmes, mes offrandes, tu vois les œuvres que je fais. Tout cela, c'est pour toi, Seigneur. Alors tu dois m'honorer, Seigneur. Et Dieu ne répond pas à ce genre de choses. Mais à côté de lui, à côté de cet homme, il y en avait un qui était insignifiant dans le fond du temple. Il était courbé dans son humiliation, dans son péché. Il prenait conscience qu'il n'était pas agréable à Dieu. On ne sait pas ce que cet homme a fait. Il a dit qu'il était un publicain. C'est-à-dire sans doute quelqu'un de la basse société. La basse société, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Oui. Eh bien, cet homme qui prie, je ne sais pas s'il a prié à haute voix ou s'il a prié dans son cœur, mais il nous est dit dans Luc chapitre 18 au verset 13, il s'adresse à Dieu dans cette prière, « Sois apaisé envers moi, moi qui suis un pécheur. » Courbons nos fronts, frères et sœurs.